Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h. Le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 16h04 dans le Super Moscato Show. On y revient, on mastique comme tous les jours, 15h-18h. Nous sommes avec Jérôme Pinon qui nous a rejoint. Attention, il est à Barcelone. Ça va démarrer, ça sent le Tour de France. Rico, alors, ben, l'ami des Bruno, Bruno Berberès, Bruno Genesio, Eric Dimeco qui est avec nous, bien entendu. Adrien Aiguin. Mon petit Pierrot, dans une demi-heure, fais-moi claquer le programme.
Alors, dans une demi-heure, on va faire le point sur le tableau de la Coupe du Monde parce qu'il y a tellement de matchs, Vincent, il faut se remettre à jour. On parlera de la Belgique, de Rudy Garcia qui est sous grosse pression. On sera également à Wimbledon où Arthur Fils a réussi un retour tonique. Truant. Et d'ailleurs, Wimbledon, on y est en direct avec Eric Salio. Il y a un beau programme aujourd'hui, Eric. Hein.
Salut à tous. Effectivement, il y a notamment le tenant du titre, Yannick Sinner, qui a débuté son match face à Nuno Borges. C'est loin d'être simple pour l'Italien. Il mène un 7-0, 7-6, mais il a dû sauver une balle de 7 dans le deuxième. Il y a 6-5 pour l'Italien. Deux Français sont sur les cours. Arthur Hinderknecht mène une manche à 0 face à l'Américain Martin Dam. Et Diane Parry mène 3-1. Balle de 4-1 d'ailleurs face à Anna Kalinskaya. Et Terence Atman va reprendre son match qui avait été interrompu hier par l'obscurité. Il est mené deux manches à une par l'Américain Frances Tiafoe.
On revient donc à 16h30 et tu nous donneras des nouvelles d'Arthur Fils. Alors d'ici là, débat sur l'OM de Genesio. L'OM normal, est-ce que ça va marcher? Vincent règle le problème. Et puis le Tour de France à 17h. Êtes-vous hypé comme jamais par ce Tour de France? Toi, t'es sapé comme jamais en ce moment, Vincent. Ah ouais. Je le sais.
Sapé.
On m'a dit, que t'avais fait un tour dans les boutiques de Narbonne et que tu es rhabillé des pieds à la tête.
Ah. Écoute-moi, j'y vais pas dans les boutiques, alors c'est surtout pas à Narbonne, là où je suis, que je vais y aller, je te le dis. Parce que je n'ai pas un gros budget, Frank, je vais vous le reconnaître.
Un bon vieux survêt de stade français de l'époque,
ça peut faire l'été. Ça peut faire l'été avec une short et des claquettes. Hein. C'est
quand même... Journal moyen, deuxième édition, 16h45.
Retour sur ce France-Suède. Hier avec un très bon joueur de foot et un très bon Jean-Louis Tour aux commentaires. Et ça y est, on est le 1er juillet, première boulette de la saison à l'Olympique de Marseille qui a mis le feu au sein des supporters. Il y a des photos sur le site officiel qui ont été retirées en urgence. Rendez-vous 16h45.
Mais c'est vrai ça?
C'est vrai, quand ça veut pas, Eric, c'est comme ça. Rendez-vous 16h45.
Et puis dans le Kikadi, on vous offre votre package exclusif Senseo, la machine plus les 200 dosettes de café offerts. Kikadi par SMS au 732-16. Mais tout de suite, Bruno Genesio sera bien présent à Marseille cet été.
Bruno Genesio, milieu de terrain professionnel de l'Olympique Lyonnais, est né à Lyon il y a 23 ans.
Ouais, en fait, c'est un alignement parfait de planète.
À l'école de football ou dans les gradins, il n'a jamais connu un autre club.
Était un petit peu aux abonnés pas bien présent.
Le 9 septembre 80, il était là.
Parce qu'il n'y a pas Esley Metlenaïs qui est blessé.
Pour un Noël Saint-Etienne, parmi 48 852 spectateurs.
Il ne veut pas remuer le couteau dans la plaie, mais le derby ne pouvait pas. Pire, de façon... pour l'instant,
record de France, toujours en cours pour un match de football.
D'un partout, après le temps traditionnel. Et devinez quoi derrière? Eh bien, l'OL gagne de nouveau dans un alignement de planètes.
Et je m'en souviendrai toute ta vie.
Oh mon Dieu, Eric, c'est comme ça.
Moscato, il va te régler
le problème. Tu vas arrêter de rigoler tout le temps.
Moi, je trouve ça
trop gênant. Mais tu es neuneu, toi.
Oui, non, mais là, c'est plus toi qui me fais rire parce que c'est la version longue avec Vincent qui fait oh, il est mu, petit poulet.
C'est bizarre parce que Deschamps, ça me fait rire, mais ça me fout mal à l'aise.
Ouais. Moi, c'est Deschamps qui me met mal à l'aise. Ça me fait rire.
Oh, moi, les deux me font rire.
Oh, mon petit poulet.
Et Doudou, Edouard G, il est beau quand même.
Edouard, c'est une belle compile là, quand même. On a tous une casserole, hein, mais quand on les colle bout à bout, ça fait mal. Alors, Bruno Genesio, entraîneur de l'OM, c'est désormais officiel. Grégory Lorenzi, directeur sportif, l'OM va radicalement changer de politique sportive. On va revenir à du plus classique, ce qui ne veut pas dire moins bien, hein, mais ça veut dire moins de paillettes, moins de coups, moins de noms ronflants. Cet OM normal, est-ce que ça va marcher selon vous? 32-16. L'OM a officialisé le nom de Genesio. On est avec Florent Germain qui suit toujours les Bleus.
Oh, depuis les States.
À Boston. Et c'est bien. Salut, à Boston, il est avec Franck McCourt.
Salut Flo.
Je,
je suis à New York encore. Et changement de dernière minute, je ne ferai pas le papier en solidarité avec Edouard G. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée.
Si tu veux qu'on se mette sur ton cas, on peut, hein, parce que tout le monde.
Vous pouvez, il y a toujours quelque chose à trouver.
Exactement. Ne
vous inquiétez pas.
Alors, Bruno Genesio, donc officiellement entraîneur de l'OM, ça fait du bien parce que c'était la priorité de la nouvelle direction. Hein.
Oui, voilà, très tôt, c'était Bruno Genesio, l'entraîneur souhaité par les dirigeants de l'OM, même s'il y a eu un petit contact avec Christophe Galtier, c'était vraiment Genesio que l'on voulait à Marseille. En plus, il y a eu un retour assez rapide de sa part. Il était vraiment motivé par ce challenge marseillais. Simplement, il a pris le temps, comme l'OM d'ailleurs, de non pas de la réflexion, mais il fallait attendre certaines échéances. On en a beaucoup parlé ensemble, le fair play financier, l'UEFA, le fait que la Ligue Europa sera bien au rendez-vous la saison prochaine. Et pour Genesio, c'était important parce que c'est une compétition qu'il aime disputer à fond. Et puis il y a un paramètre qui colle à votre débat et qui est important aux yeux de l'Olympique de Marseille, c'est que bon, Genesio, la petite phrase souvent c'est de dire qu'il coche beaucoup de cases parce que il connaît la Ligue 1, il a eu des résultats dans le championnat de France, voilà, il a une certaine expérience, il a aussi un passé de formateur, donc ça peut s'avérer précieux dans un contexte d'austérité où l'OM va devoir sûrement lancer certains jeunes. Mais Marseille a vraiment apprécié une certaine lucidité chez Genesio. C'est pas un coach comme on a connu parfois à Marseille, sans citer de nom, qui sont un peu bornés et qui ne pensent qu'au sportif, qui ne prennent pas trop en compte la réalité parfois économique d'un club. Et là, visiblement, il y a eu des échanges où Genesio a très bien saisi là où il mettait les pieds. Donc il sait qu'il y a des contraintes financières, qu'il y aura des départs qui seront dans les tuyaux forcément. Faudra au minimum deux grosses ventes, Greenwood, Balerdi ou Quinton Timber, on verra. Faudra se délester des gros salaires Aubameyang contre Dogba Hoybière. Donc il y a du taf, ça va s'accélérer quand même parce que reprise de l'entraînement donc la semaine prochaine. Il y aura aussi une conférence de presse de présentation avec le trio Grégory Lorenzi, Stéphane Richard et Bruno Genesio, et ensuite il y aura un mini stage en Côte d'Ivoire. Donc le programme est là et l'entraîneur est nommé, il a été officialisé.
Merci Flo. Vincent, plutôt tu le sens plutôt comment là cette nouvelle aventure?
C'est compliqué parce qu'on peut pas tirer des plans sur la comète. C'est dur avec Marseille parce que là ils sont vraiment au creux de la vague. Après que lui a envie d'entraîner, parfois beaucoup d'entraîneurs ont envie d'entraîner Marseille parce que tu te dis, si je les sors de l'ornière, c'est un club qui est magnifique, populaire. C'est quand même un grand club historiquement. T'as envie, la passion qui anime cette ville. Bon, je veux te dire, quand t'aimes le sport, c'est quelque chose de magnifique. Mais bon, là, c'est l'incertitude la plus totale. J'ai l'impression que ça peut pas aller plus mal. Donc, je crois qu'avec ce mec, ça ira mieux parce que Bruno, il a du métier, il est pas fantango, tu vois, il sera pas en plus avec un milieu, tu vois, les mecs étaient pas, quand même, c'était pas un équilibre terrible, là, quand même, Longoria et tout le monde, là, c'était vol au-dessus d'un nid de coucou quand il repense depuis 4-5 ans, quand même, avec un actionnaire qui est jamais là, qui est mis à l'écart, et chaque année, déjà, au niveau de, c'est pas sain, le mec, chaque année, il allait aux États-Unis pour essayer d'arracher 50 millions, c'était un braquage à chaque fois, il revenait, il y a ce qu'on taille, près de 50 millions, donc à un moment donné, tu vois, ça sent pas quand même le, c'est pas très sain, tout ça. Et j'ai l'impression que là, Lorenzi, je sais pas. Oui, j'ai l'impression que ça va s'assainir. Parce que Marseille ne mérite pas quand même tous ces clampins. Il les mérite pas. Donc, je pense que ça va le faire. Et Bruno Genesio, ouais, moi j'ai confiance en lui. Je pense qu'il va. On a débroussaillé autour
juste
de lui.
Juste un bémol, Vincent, quand tu dis Marseille ne mérite pas tous ces clampins, la fin de l'histoire montre que Pablo Longoria a fait n'importe quoi. Ça, c'est vrai. La fin de l'histoire le montre. Mais il faut se souvenir de son exercice. Pendant son exercice, il était plutôt apprécié. Plutôt apprécié pour son ambition. Oui. Tu vois? Et c'est là où on va voir la nouvelle direction qui sera moins ambitieuse, plus dans l'humilité, va recevoir comme accueil de la part des supporters.
Oui, mais faut faire attention, justement, il y a un déséquilibre. Faut que les supporters sont super, mais bon, faut faire attention quand t'es apprécié pour tes dépenses, avec l'argent qui n'est pas le tien, c'est qu'il y a quand même un déséquilibre et les supporters sont toujours en train de vouloir faire acheter un tel, quand c'est pas ton pognon, t'en fous. Eux, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir du plaisir au stade. Donc, c'est pas très bon. Faut couper, justement, ne pas faire semblant de les écouter sans les écouter. Tu vois ce que je veux dire? C'est important.
Chacun a son...
Chacun a sa place, tu vois. À un moment donné, tu leur dis oui, oui, c'est comme quand tu fais des élections, tu promets tout, et puis après, tu reviens avec une fois que t'es élu, ah non, le système économique, tu fais le contraire.
Ça marche pas comme ça.
Alors, quand tu demandes de l'argent.
Sur cette nouvelle orientation qui a été imposée par les finances, qui n'est pas un vrai choix.
Qui a été imposé et qui a été accepté par le nouveau coach.
Exactement.
Voilà, donc ce qui est rassurant dans cette histoire-là, alors rassurant aujourd'hui, c'est que on a compris le choix. Il y avait pas ces quatre de coach qui étaient sur la liste. D'après ce que j'ai compris, il y avait Bruno et Christophe Galtier. C'est Bruno qui devient le coach de l'OM. Ça a traîné pendant un long moment. On a même pensé à un moment donné, rappelle-toi Pierrot, puisqu'on a fait le débat. J'étais à Paris avec vous ce jour-là quand tu avais eu des infos comme quoi il s'impatientait et que ça commençait à l'inquiéter. La bonne nouvelle, c'est que ça a traîné un petit peu et Bruno est toujours là et Bruno a signé et Bruno est l'entraîneur de l'OM. Donc ça veut dire que malgré tout, il est déterminé à entraîner ce club et qu'il connaît les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire que le club va être obligé de vendre des joueurs, que l'effectif sera peut-être un peu moins glamour ou un peu moins prestigieux que ce qu'on a vu ces dernières années et que Bruno est prêt à relever le défi. Donc ça, c'est quand même pour moi positif. Du positif, dans le sens où il sait qu'il a un challenge particulier, important, et je le crois capable d'avoir de l'imagination, voire de lancer des petits jeunes, puisque c'est une de ses qualités aussi, hein, on l'a dit, de partout où il est passé, il n'a pas hésité à lancer des petits jeunes, donc ça c'est quand même un point fort quand tu dois récupérer une équipe qui est à moins d'argent et que tu es obligé de te tourner un petit peu vers les jeunes du club, qui s'entraînent avec les pros, c'est bien, mais qui jouent c'est mieux aussi. Donc ça c'est son défi. Écoute, je vous l'ai dit, je l'ai croisé à midi, on a un petit peu parlé, bien sûr, je le connais bien, Bruno, on a joué contre.
Qu'est-ce qu'il a mangé? Qu'est-ce qu'il aime?
J'étais pas été curieux au point de regarder ce qu'il mangeait. Non,
Et toi, t'as mangé quoi?
Un bon resto qui s'appelle la Villa Rocca, où il y a des bonnes pizzas, où il y a des bonnes pâtes.
Passe sa vie au resto. Non mais le pognon, il nous parle en son nom, il passe sa vie au resto.
La Casa Dimeco est fermée le midi l'été, donc je suis obligé de.
Ah, ça y est, ça commence, les feignants. Ah, ça commence. Allez, donc, ça a duré deux mois l'histoire. Deux mois.
Donc j'ai un peu discuté avec lui et franchement, je l'ai trouvé d'abord conscient du boulot qui l'attendait, des exigences aussi du club et surtout du vrai challenge sportif pour lui. Et je l'ai trouvé très très serein et je trouve que sa personnalité qui est quand même calme, très calme, je pense que ça peut être que mieux dans ce club qui a souvent vécu ces derniers temps dans l'hystérie et qui s'en est nourri et qui a même qui est même presque tombé à cause de ça. On sait aujourd'hui que la gestion de De Zerbi avec toute cette frénésie a rendu fou un peu tout le monde, tu vois. Donc un peu de calme avec un coach qui dans la com, ça va être important au début de bien expliquer son projet, ce que les supporters doivent attendre. Et je pense que les gens comprendront. Moi, je pense que les gens comprendront.
Le projet, on veut vous entendre, les supporters de l'OM. Hein, donc, vous appelez le 32-16, puisqu'on change d'air, clairement, avec l'officialisation de l'arrivée de Bruno Genesio. Vincent, tu voulais dire?
Mais le projet, c'est d'expliquer que pour l'instant, il n'y aura pas beaucoup de projets.
C'est un projet à l'économie, avec
les joueurs. Mais il y a toujours un projet. Ce qu'il faut, c'est bien avoir une équipe, essayer de marcher, essayer de faire
le budget l'année prochaine. Voilà.
Jérôme Pineau.
Dans cette arrivée, il ne faut pas oublier Greg Lorenzi. Greg Lorenzi a aussi évolué dans des clubs et juste avant était au stade brestois. Il sait faire avec peu de moyens et ça a beau être l'OM. Je pense qu'aujourd'hui,
je suis désolé, Jérôme, ce sera un autre boulot à l'OM. C'est pas la même chose que tu fais à Brest.
Écoute, c'est pas la même chose que tu fais à Brest, mais si tu gardes tes mêmes principes et si tu appliques ce que voudra Monsieur Richard, c'est-à-dire on va faire attention et on va mettre des choses en place avec ce qu'on a et ce sera déjà pas mal, le profil idéal, c'est Bruno Genesio et Greg Lorenzi. Parce qu'à chaque fois qu'on a des coachs et des présidents délégués surchauffés qui s'en prennent à coups de millions et qui vont chercher les mecs, etc., ça marche pas. On l'a vu, ça a pas marché. Alors Longoria, d'accord, mais derrière, on dit toujours, ouais, l'OM, c'est un club qui prend feu, on te met des mecs qui ont du sang et qui sont sanguins. Ben non, ça marche pas. Éric Guéretz, Raymond Goethals, Didier Deschamps, c'était pas les plus sanguins et pourtant ça a marché. Moi, je trouve que ce duel-là, ce duo-là et ce coach-là, moi, Bruno Genesio, il va pas arriver en t'inventant. Il va pas arriver en t'inventant un plan de jeu. Moi, je joue comme ça, donc ils vont jouer. Non, lui, il va arriver. Comment on fait? Voilà. Et il va faire jouer les mecs qu'il a. Et il l'a déjà fait dans d'autres clubs. Et ça a plutôt très bien réussi. Donc, oui, on va alors, pas s'enflammer.
Moi,
on va pas se dire que c'est super.
Je vous oppose quelque
chose.
Mais
moi, je pense que c'est un très bon choix.
Parce que je suis d'accord tout à fait sur le côté hystérique qui n'est pas viable à long terme dans n'importe quelle organisation, hein, et particulièrement dans un contexte sulfureux. Donc ça, on est d'accord. Ça ne peut être que mieux. Mais il faut quand même pas oublier que l'OM se nourrit, enfin les supporters de l'OM se nourrissent, d'étoiles. C'est comme ça, ça a toujours été comme
c'est
ça.
Ça le problème.
Et que c'est une attente qui n'est pas rationnelle. Et donc, et combien de temps la raison va l'emporter
sur l'impatience. Oui, mais Pierrot, pour l'instant, ils sont au fond du saut.
Mais c'est pour ça que je te dis combien de temps.
Le moment de la reconstruction avec Bruno Genesio,
tu sais
les supporters à l'OM, Eric, il peut le dire. Ils attendent quoi? De gagner des matchs, déjà.
Une bonne équipe de soldats, ça va marcher pendant 3 mois. L'équipe de soldats, elle sera confrontée à son plafond de verre, ça va s'impatienter. C'est là où il y a une vraie inconnue.
Oui, mais c'est là où les personnages comme Lorenzi et Genesio seront peut-être plus capables de pas tomber dans le piège.
Non, mais il y a que les résultats qui, à un moment, qui...
C'est quand même le grand écart pour Lorenzi de passer de Brest à Marseille.
C'est
quand
ça.
Même. Là, il passe des PTT de Montluçon à la World Company, quand même. Et enfin, qui a quand même des dirigeants un peu, parfois un peu fumeux.
Eric, je suis d'accord
avec toi. C'est dur.
Quand tu dis, Eric, ça fait plusieurs fois que tu dis dans les débats sur l'OM, si on explique aux gens, aux supporters marseillais, à l'environnement marseillais, ils comprendront. Mais comme moi, quand je suis d'accord avec Pierrot, ils le comprendront avant le début de la saison. C'est possible, hein, si tu as un budget pour jouer un budget niveau 6e, 7e. C'est encore possible, parce que là, c'est l'austérité.
Ce sera pas moins que ça,
hein, je pense. Dans les 5, je pense.
Parlons pas de budget, parlons d'ambition au niveau de l'effectif, on va dire, du niveau de l'effectif. Et si c'est toute la saison, tu es au niveau de ton effectif, 5, 6, 7, dans une sorte de mini ventre mou, tu sais que tu joueras pas.
Pourquoi Adrien, tu parles là-dessus.
C'est nouveau pour l'OM.
Quel que soit le début de saison, le public va se chercher une star.
C'est comme ça
et c'est très bien d'ailleurs.
Je comprends ce que vous voulez dire et en effet si c'est le risque. 4e, 5e budget que tu végètes parce que comme le dit Jérôme, c'est pas interdit non plus de surperformer.
Non, mais si tu surperformes pas, ça va être
mais
dur.
Mais si tu végètes, ça dépend de la manière dont tu vas végéter.
Ouais.
Ça va être important aussi la manière dont tu vas végéter parce que cette année finalement, tu as végété mais à la fin en état catastrophique. Donc c'est pour ça que les supporters
si
à l'arrivée tu as le 4e, 5e budget et que tu es là, alors quand tu es 5e, 6e, tu n'es pas dans le ventre mou, hein. Ça veut dire que tu es à la lutte pour les places européennes, voire même pour la 3e, 4e place jusqu'au bout. Donc ça veut dire que là, il n'y a pas de VGT
et
de ventre mou. Et c'est là où la façon dont se produira cette équipe, si tu sens qu'il y a une âme, si tu sens que les mecs ne sont pas là juste pour prendre le chèque à la fin du mois, si tu vois les mecs progresser, si tu vois,
s'il y a de l'enthousiasme,
que cette équipe-là attirera la sympathie et les dirigeants auront une année un peu plus tranquille pour travailler pour la suite. Bien sûr que si tu es 4e budget de France et que tu es 7e, 8e en étant là, nul, en perdant au Stade Vélodrome régulièrement, c'est sûr que ça va gronder à un moment donné.
Nous accueillons Frédéric, supporter de l'OM au 32-16. Bonjour Frédéric.
Salut Frédéric. Bonjour tout le monde.
Frédéric, est-ce que tu crois à cet OM qui revient à un fonctionnement un peu normal?
Moi, je le souhaite déjà depuis quelques années parce que c'est prendre des anciennes stars qui étaient proches des 40 ans, j'y croyais pas une seconde, même s'ils ont rendu de grands services, hein, je pense à Aubameyang et autres. Mais je suis pour sortir des jeunes du centre de formation. L'OL y arrive. Je comprends pas pourquoi Marseille n'y arrive pas. Je revois là, j'ai encore vu ce matin une actualité où il y a un petit jeune qui préfère aller jouer à Concarneau parce qu'il sent qu'il va jamais pouvoir jouer à Marseille. Et je trouve ça navrant de dire qu'on recrute à tour de bras plein de jeunes soi-disant fabuleux et qu'il y en a aucun qui sort du centre de formation pour intégrer l'équipe première.
T'es pas trop
Oui, il y a un jeune centre de formation qui, ne voyant pas d'avenir au sein de l'OM, préfère aller jouer en Ligue 3 à Concarneau. Oui, mais, et je trouve ça navrant.
S'il va à Concarneau, c'est qu'il peut
avoir le centre de formation, ça fait Ligue 3. Ça fait envie, mais il faut que les mecs aient le niveau.
Ben oui, c'est ça. C'est pas un centre aéré, le centre de formation. Si un mec qui va à Concarneau, c'est qu'il ne peut pas jouer à l'OM.
Oui, mais ce que veut dire. Si il y a 3-4 noms de Marseille qui ressortent, le public sera derrière. On l'a eu avec Nasri, on l'a eu avec d'autres.
Oui, mais Nasri, tu parles d'un grand joueur.
Il n'a jamais été pour parler à Concarneau, Nasri.
Alors, peut-être que notre auditeur, se fait mal comprendre, mais moi je comprends ce que il veut dire. C'est que, en réalité, tu as les joueurs d'appoint du club, tu n'es pas obligé. Combien de joueurs on est allé acheter qui étaient des joueurs d'appoint, voire décevants, hein, c'est-à-dire des catastrophes, hein. Combien on en a eu? C'est-à-dire que tes joueurs d'appoint, tu dois pas les payer, tu dois les fabriquer. Et je suis désolé, l'OM, il y a quelques années, et c'est pas si vieux, a gagné des Gambardella. Ça veut dire que tu avais de bons jeunes que qu'on n'a jamais vu et qu'on préférait partir. Rien que l'an dernier, le petit Vaz et le petit Bacola, on les voit un petit peu jouer, on se dit tiens, ils ont quelque chose. Ils préfèrent partir et on préfère les faire partir pour gagner 4 sous à la trêve hivernale. Mais ces mecs-là, il faut pas que tu les achètes, il faut que tu les fabriques, ces joueurs d'appoint. Après sur
oui, mais les commissions,
mais faut que tu les fasses jouer.
Les commissions, pour les faire jouer les mecs de ton club, tu les prends pas.
Pour les faire jouer, il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils soient dans l'effectif, il faut qu'ils soient régulièrement sur la feuille de match, et il faut les faire jouer. Regarde le petit Lopez et le petit Camara. Rappelez-vous, moi je vous en parlais bien avant qu'ils jouent à pro. Parce qu'il y avait toujours ce débat sur le centre de formation, et tout le temps je vous disais, parce que je connais du monde au centre de formation, il me disait, tiens, il y a des jeunes chez nous, le petit Camara, le petit Machet et tout. Rappelez-vous, et c'est Rudy qui arrive, il jouait jamais. Jamais on les avait vus, il s'entraînait de temps en temps avec les pros. Rudy arrive, il les fait jouer. Et du coup, on se dit putain, oh, ces deux minots qui sont nés chez nous, ils sont bons. Et ouais.
Merci à Frédéric et merci à Florent Germain. Donc, toujours en direct de New York pour
Ouais, j'ai compris, ça va partir en sucette. Hein. Allez, j'ai compris.
Allez, dans un instant, on revient.
J'ai écouté Eric, c'est beau.
Sur la Coupe du Monde avec une belle affiche à venir, Norvège-Brésil et puis un Rudy Garcia sous pression. À tout de suite.
Il est 16h26, on est dans le Super Moscato Show. On revient tout de suite.
RMC, jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 16h31 avec Jérôme Pinault, Eric Dimeco et Adrien Aigouet, mon petit Pierrot, dans demi-heure sur RMC. Fais-moi claquer le programme.
Alors, le programme, c'est le Tour de France qui démarre de Barcelone dans 3 jours. Où se trouve Jérôme Pinault? Êtes-vous hypé comme jamais par ce Tour 2026? D'abord, la Coupe du Monde.
RMC, le Mosca.
Zap.
Alors, la Coupe du Monde, on se tient à jour sur le tableau, Vincent, parce qu'elle est 16e de finale. C'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs. Parfois, on a un peu de mal à s'y retrouver. La nuit dernière, outre la France, qualification de la Norvège face à la Côte d'Ivoire et du Mexique aux dépens de l'Équateur. Lors de ce Mexique-Équateur, d'ailleurs, le défenseur équatorien Piero Hincapié a pris un carton rouge pour avoir parlé à un adversaire en mettant la main devant la bouche dans un moment de tension. C'est le deuxième.
C'est le deuxième.
Mais en tout cas, la règle est appliquée.
Ouais.
Et c'est pas mal, finalement, je trouve, Vincent, non ?
Oui, je sais pas si c'est bien pire.
Parce que là, tu voyais qu'il lui disait 2-3 horreurs. Hein,
je vois pas ce que ça amène de plus. Plutôt tu chopes un mec, tu dis la main devant la bouche, c'est pas grave.
Est-ce qu'ils entendent ce qu'ils disent ? Parce qu'un rouge pour.
Non, pas besoin d'entendre.
Non.
Ah ouais, moment de tension. Tu mets la main dans la bouche pour dire on boit l'apéro après,
t'es rouge. La main dans la, devant la bouche, c'est suspect.
Non, mais le, ouais, c'est dans le cadre d'une altercation, hein, dans le cadre d'une embrouille.
Oui, si tu parles à ton pote, à ton coéquipier, ou ton entraîneur avec la main dans la bouche, y a pas de souci, hein.
Oui, non, bah, j'imagine.
Ouais, bon, ça, c'est.
Non, mais c'est un peu lourd, comme rouge là-dessus, c'est lourd.
Non, mais en plus, sauf que c'est les coups de pied, tu vois, si je vais te dire un truc, ça, c'est.
Après, quand tu le sais,
mais pas grave, c'est au football, quoi, toi.
Oui, non, non, mais sauf que les gars, on est quand même les premiers à dire que. De voir les mecs toujours la main sur la bouche pour parler, ils doivent se parler du beau temps, du soleil ou de la dernier jeu vidéo qui est sorti avec la main devant la bouche. Donc c'est juste une mauvaise habitude que les mecs ont pris. Et à cause de ces mauvaises habitudes, ben il y a les mecs qui profitent pour dire des horreurs aux mecs, et notamment si c'est sorti cette règle, c'est par rapport à l'histoire qui s'est passée entre le racisme, Benfica et le Real, les propos soi-disant racistes. Donc du coup, ben c'est comme tout, il va y avoir quatre mecs expulsés, et les mecs, ils vont arrêter de se parler avec la main devant la bouche,
Et après, ils vont se mettre le doigt dans le nez,
mais Vincent, d'un autre côté, si tu vis sans mettre la main devant la bouche pour parler, c'est pas grave quoi, tu vois, si on leur fait pas
il y a rien de grave, c'est pour ça que je te dis, c'est pas une énorme révolution si tu me demandes mon avis. Oui, bon, ben oui, si c'est les mecs qui disent des ordres. Mais tu sais d'où ça vient, ça? Je vais te le dire, ça vient de Joe Pesci, dans les Affranchis. Oui. Les mecs ont pris la main. Non, mais je te le dis, ça vient de là.
Tout sur les lèvres.
Ça vient de nous. Ça vient de nous parce qu'il y a des gros plans tout le temps sur les joueurs. Et il y a eu deux, trois fois. Vous savez, l'émission J+1 à l'époque en France. Et en fait, que font les mecs quand ils parlent entre eux? Je parle pas d'embrouille. Quand ils parlent entre eux en train d'arriver au stade, quand ils reconnaissent la pelouse, ils font comme nous, on fait tout le temps dans la vie. On dobe sur un pote, on dit du mal de l'entraîneur, on dit du mal de l'adversaire. Non, mais c'est ça.
Et donc,
moi, je le fais régulièrement. Et quand tout est traqué et que le lendemain, dans les médias, ils ont dit ça sur un tel, tu t'en sors pas.
Tu sais comment parler aussi, je vais te le dire, moi, parce qu'Eric a dû le faire. T'étais là, moi, j'allais dans sa touche et je voyais qui c'est qu'il y avait dans les premières traversées sur le premier rang. Tu disais, t'as vu la nana au quatrième rang, le mec, il regardait tous comme ça. Et c'est comme ça, hop, tu parles comme ça, ça veut pas dire forcément que tu dis des horreurs sur l'autre. Alors maintenant, faut mettre la bouche. Mais à l'époque, on grommelait, on avait pas besoin de mettre la bouche. Dis que ça vient des affranchis, ça vient de la
Mais tu sais ce que c'est le tournant, c'est en 2000, c'est Deschamps qui annonce sa retraite internationale à Roger Lemaire sur le terrain le jour de la finale, et puis tout le monde le voit ou le lit.
Et Lemaire essaie de le retenir.
Et donc l'info sort comme ça, et donc ça lui aura pas plu. Donc après, ils ont pris l'habitude.
Je me demande si moi j'ai vu des émissions où ils faisaient venir des ceux qui lisent sur les lèvres là. Les sourds muets lisent sur les lèvres, et du coup ils prenaient des gens pour lire sur les lèvres des gros plans qu'on voyait à la télé, et peut-être de cette séquence là. Tu as raison, Pierrot. Donc à un moment donné, vous les médias, vous avez des responsabilités.
Nous les médias, tu fais partie, Eric.
Nous sommes de vulgaires consultants.
Ah ouais, d'accord.
En tout cas, en ce qui concerne les sanctions dures pour faire passer les mauvaises habitudes, si tu veux faire ça, nous dans le vélo, ils ont mis des sanctions aux mecs qui sautaient sur les trottoirs pour doubler dans le peloton, et la position froume, la fameuse position assise sur le cadre, a été interdite. Il y en a deux, trois cocos qui l'ont fait hors course. Je peux dire que depuis, ça a disparu. C'est vrai que quand c'est radical, ça va aller vite. Ils vont enlever la main dans la bouche.
Allez, un mot du programme du jour. Angleterre, République démocratique du Congo. C'est 18h. Hein, c'est juste après le Moscato Show. États-Unis, Bosnie, 2h du matin. Et Belgique, Sénégal, ce soir. Alors, en soirée, Rudy Garcia, très critiqué en Belgique. Il reste assez confiant avant ce 16e de finale.
On voulait finir premier du groupe, on a fini premier du groupe. On aurait aimé gagner plus de matchs, évidemment, tous les matchs. On va pas refaire l'histoire de notre Coupe du Monde, mais l'important, c'est d'être sorti de la poule d'abord, d'avoir fini premier, parce que ça nous laisse à Seattle plus qu'autre chose. Et maintenant, on sait que c'est élimination directe. On sait qu'on joue la meilleure équipe des troisièmes de toute cette Coupe du Monde. Je vous rappelle que le Sénégal était avec la Norvège et la France et l'Irak, mais donc avec deux grosses équipes. Voilà pourquoi, certainement, ils auront aussi fini troisième. Je dirais que peu importe, parce que pour aller loin dans une Coupe du Monde, faut battre des bonnes équipes, voire des très bonnes équipes. Donc, Sénégal se présente à nous, on veut être en huitième de finale, et on fera tout pour.
Qui est favori de ce match? C'est pas évident, hein.
Je crois que j'ai joué la Belgique. Sur les pronos, je crois que j'ai mis le nul, moi.
Oui, c'est ça, tu me l'as dit. Mais parce que tu avais du mal à te déterminer.
Ben oui, oui, parce que
c'est pour répondre à ta question. Conviction, quoi.
Non, mais c'est pour répondre à ta question. Moi, pour moi,
les Belges n'ont vraiment pas été foufou là depuis.
Et en plus, catastrophique. Et en plus, Rudy Garcia a fait une belle communication suite au dernier match avec la victoire, les anciens qu'on a voulu foutre dehors et tout. Ouais, l'adversaire, il était faible et de te persuader que t'as fait les bons choix avec ces joueurs-là parce que t'as battu un adversaire faible face au Sénégal qui est une très bonne équipe. Moi, je pense qu'ils prennent des risques. Moi, pour moi, à mes yeux, tout à l'heure, j'entendais les paris. Pour moi, le Sénégal est favori. J'ai pas été séduit par la Belgique, mais alors pas du tout.
Belgique-Sénégal, 22h sur RMC. On va retourner à Wimbledon avec un très beau programme aujourd'hui. Rinderknecht, Fonseca, Ogé Aliassime, Djokovic, Sinner. Et surtout, Eric Salio, un petit regain d'intérêt pour le public français, puisque hier, c'était le grand retour d'Arthur Fils et il a été impressionnant pour son retour.
Ouais, absolument, une victoire expéditive, 7-5, 6-1, 6-3 face au Belge Collignon, qui venait de faire comme quart de finale à Halle. Mine de rien, le Français n'avait plus gagné un match en Grand Chelem depuis le 29 mai 2025. C'était, vous souvenez, face à l'Espagnol Mounard à Roland-Garros, et le lendemain, il avait déclaré forfait. On peut le dire, les doutes nés de son forfait Porte d'Auteuil récemment là ont été levés sur le petit court 15. Goran Ivanišević, son coach, vainqueur ici en 2001, est convaincu que le gazon est sa meilleure surface, et le Français reconnaît qu'il s'y sent super bien.
Mais je joue bien dessus et j'ai toujours su que vu que je retourne assez bien, j'ai toujours su que j'avais pas mal de coups à jouer. Puis c'est rare de bien bouger sur le gazon. Quand on regarde tous les joueurs, souvent ça coince un peu. Bah, je suis assez chanceux, j'arrive à glisser à droite et à gauche, donc ça rapporte pas mal de points.
Alors demain, il va passer un gros test face à Matteo Berrettini. L'Italien a atteint la finale en 2021. Ici, c'est un client sur herbe. Mais si ça passe, le tableau s'ouvrira. Parce que hier, Ben Shelton, qui était son adversaire théorique en huitième de finale, eh ben, il a sauté.
Ah voilà, c'est le Eric Salio que j'aime. Tu vois, il se dit ça avec un enthousiasme de folie.
C'est-à-dire qu'il va dérouler. Quoi.
Il nous donne des perspectives pour Arthur Fils, j'adore. Le point sur les matchs en cours, Eric.
Avec donc Yannick Sinner qui mène 2-7-0 face à Borges. Diane Parry vient de perdre le premier set contre la Russe Kalinskaya. Terence Atman, il est peut-être en position de revenir à 5 partout dans le quatrième face à Tiafoe. C'est un match qui avait été interrompu hier. Et puis Arthur Rinderknecht, lui, mène une manche à 0 face à Martin Dame. On est dans le tie-break du deuxième.
Merci Eric.
Et dans le public, Rory McIlroy avec sa belle veste
Masters.
Alors, le rugby, c'est tous les jours dans le Super Moscato Show sur RMC. Tirage au sort de la Champions Cup 2026-2027 aujourd'hui. Pour Toulouse et pour Bordeaux, c'est un tirage plutôt clément. Pierre Thévenet.
Oui, plutôt clément. Toulouse, notamment, va éviter la plupart des gros. Ils vont jouer les Lions du Sud-Africain, la franchise sud-africaine la moins forte. Le Connacht, là aussi, c'est l'équipe irlandaise sur le papier la moins forte. Les Saracens, c'est Exeter. Il y aura également La Rochelle dans cette poule. On rappelle que les équipes françaises ne s'affrontent pas. Et pour Bordeaux, il y aura une équipe sud-africaine, les Stormers. Cette fois, c'était les Bulls l'année dernière et les Sharks l'année d'avant. On ne sait pas encore s'ils vont aller au Cap ou si les Stormers viendront. On aura le calendrier dans les prochains jours. Donc les Stormers, le Munster, Bristol et Gloucester pour les Bordelais qui sont également avec le Racing 92 dans cette poule. Et puis c'est le coup dur pour Pau qui est avec le Leinster et Glasgow notamment. Et pour Montpellier qui se tape Northampton et Bath, les deux plus gros clubs anglais. Donc plutôt simple pour Toulouse et Bordeaux. Pour les autres, ça va être assez compliqué.
Par contre, j'ai lu qu'il changeait la formule cette année du coup là. Et c'est la même formule, mais par contre donc les semaines paires, donc ils doivent jouer contre une équipe qui a une qui avec le nom qui commence par une voyelle. Les semaines impaires, qui commencent par une consonne. Il paraît
pas de ne chier sur mon sport.
Je dis ça, je dis rien, Pierrot, mais comme c'était pas assez compliqué.
Alors on va vérifier l'info parce que
pour un sport intelligent, faut compliquer les règles. Tu comprends? Nous, on peut pas comprendre.
20 secondes pour une info transfert au Racing.
Oui, le Racing 92 a confirmé l'arrivée de Paul Coste, le centre toulousain, qui n'était pas dans le groupe pour la finale du Stade toulousain. Il va compenser le départ de Gaël Ficou, qui lui est parti sur la rade à Toulon. Maxime Macheneau est de retour également, le demi-mêlée champion de France, pour un an chez le club français.
Alors, question sérieuse, Vincent. Quand tu passes de Toulouse au Racing, le melon, la montgolfière, elle explose ou elle dégonfle?
Ah, ben là, elle va dégonfler parce que quand il va aller jouer à Créteil, tu vas voir qu'il n'est pas.
Attention, attention, le Racing,
tu vois,
quand même.
Ça m'a dégonflé, là.
Le Racing.
Tu vas aller jouer à Créteil en banlieue parisienne.
Oui, mais c'est pas n'importe quelle banlieue parisienne.
C'est les esthètes.
Il y aura un petit chèche, il va acheter un petit chèche du Racing.
C'est quand même le club qui a son siège dans le 7e arrondissement de Paris, même s'il s'appelle le Racing 92.
Est-ce qu'il mettait les montres cassées à gland quand c'était la mode?
Non, mais alors, écoute-moi. Là, oui, ne parle pas du siège de Paris. C'est différent. Le rugby est complètement séparé de ce genre de choses. Mais tu as raison.
Mais la culture, c'est la même.
Je veux te dire que tu as dégonflé par rapport au notre table toulousain. Ils vont boire de temps en temps une bière au tennis.
Bon. Donc alors opération dégonflage pour Paul Coste.
Ouais, non, mais là tu dégonfles, je te le dis, quand tu vas les vestiaires à Créteil, tu vas voir un peu le
journal moyen de Toulouse. Deuxième édition
France-Suède avec quelques saucisses de Jean-Louis Tour. Il a pas souvent été pris par le journal moyen, il commande tous les matchs maintenant. Et puis Eric, une première boulette de la saison à Marseille, il fallait bien que ça commence comme ça. Crise diplomatique là, ça
C'est chaud.
Ben, rendez-vous dans le journal moyen.
Je pense que ça va te faire rire, Vincent. Ah oui, je sais pas pourquoi.
Vincent, il va aimer. Allez, c'est parti.
Je le sens, oui. Allez, les 16h43, on revient tout de suite.
RMC, jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 16h48, on est sur RMC dans le Super Moscato Show et sur le journal moyen d'Adrien Aiguin, deuxième édition.
La deuxième édition sur RMC du journal moyen France-Suède avec un très bon Jean-Louis Tour, première boulette de la saison à l'OM, Eric. Et puis 16h55, première question du Kikadi du jour. Vous écoutez RMC, c'est le 2725e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct live, en plein milieu de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez toujours pas entendues sont dans le journal moyen. Deuxième édition.
C'est la Coupe du Monde, États-Unis, Canada, Mexique. Les Bleus sont en 8e, jingle.
Ah non, pas du tout, c'est toi qui as foutu le bordel, Gilbert, donc t'inquiète pas. Merci Gilbert, à tout à l'heure pour l'après-match.
Ah ben, le groupe Bibia pour cette Coupe du Monde. Un très bon Jean-Louis Tour, il est en commentaire de France-Suède sur RMC en 16e de finale. Les Suédois à 3-0 à la fin du match tentent de sauver l'honneur. Comment tu nous dis ça, Jean-Louis?
Heureusement qu'ils étaient là en 98 pour te sauver, Manu, c'est de là. Hein. Oui, on est sur le 8e de finale. Hein.
Oui, David il a marqué un but en or. Oui.
Attention, le ballon pour Gyökeres, l'arrêt de Maignan. Oh, c'était là la balle de sauvage d'honneur, oh là, si on peut dire ainsi. De sauvetage d'honneur.
Pour
Gyökeres. parce que le ballon qui traîne.
Sauvage d'honneur. Alors moi, moi j'ai une théorie. Il se prend pour Johnny Depp, la pub, hein, pour le parfum. Sauvage.
Ah, c'est ça.
Par contre,
il un peu, tu sais qu'il ressemble un peu
à Jean-Louis. Il a un peu du Johnny Depp.
Le petit bonbon de cette séquence, c'est Manu Petit qui se moque de quelqu'un qui se trompe de mot quand même.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que l'introduction est pas mal.
Hein. Ouais.
Et puis dans l'after.
Ouais, mais quand t'es champion du monde, t'as le droit.
Bah oui. Juste après la fin du match, Jean-Louis reste dans l'after. Il est présent, impressionné par le match des Bleus. Jean-Louis.
Regardez le match de Gyökeres. Au début, il va batailler. Il va au contact avec Saliba. Il se dit, je peux le jouer, etc. On va y aller et tout. À la fin, il fait même plus les efforts. Ils ont lâché. Ils ont jeté le gant. Les Suédois.
Ils ont jeté le gant. Alors ça, je ne la connaissais pas. Ce qu'on appelle un Oscar. Heureusement, Daniel Riolo écoute le journal moyen de tous les jours. Et il a pensé à nous.
À la fin, il fait même plus les efforts. Ils ont lâché, ils ont jeté le gant, les Suédois, et ils voulaient que ça s'arrête.
Non, c'est jeter l'éponge, jeter l'éponge.
Jeter l'éponge, pardon. Ils ont jeté l'éponge complètement. Et
il est impitoyable, Daniel. Non, baisser les gants, ouais. Jeter l'éponge.
Non, c'est baisser ta garde, baisser les gants.
Voilà, Moscou.
Non, tu mets pas baisser ta garde ou jeter l'éponge, pas baisser les gants, ça n'existe pas.
Non,
on le dit pas, ça.
Ok.
Ah non. Ah ok. Sans transition. C'est ta garde.
C'est toi le boxeur.
C'est toi le spécialiste.
Mais non, mais même les spéciaux. Dans la vie de tous les jours, on dit il a baissé la garde, il a pas vu venir ou un truc comme ça, tu vois. Mais pas il a baissé les gants.
Après, tu peux baisser les bras aussi. Sans transition.
Oui, voilà.
Il se passe des choses à Marseille, Eric. Ça faisait longtemps. On parle de l'OM. Jingle OM.
Oui, c'est rigolo ça. Il va falloir gagner.
Ah oui.
Il va falloir mettre des sous.
Ah oui, mais des sous, il en a mis le front de Macron.
Je savais pas quand il lui a dit ça qu'il allait m'enfler.
Ah non,
ça,
il souriait, il rigolait à côté, il fait ouais, je vais en mettre. On aurait pu croire à un poisson d'avril, mais non, parce qu'on est le 1er juillet. Cette photo a bel et bien existé sur le site de l'OM et sur le site de la marque Puma, l'équipementier de l'OM. Lundi, Marseille dévoile son nouveau maillot, extérieur bleu, nuit. Joli maillot, Eric, hein, c'est un maillot extérieur. Et pour illustrer le maillot, pour donner envie de l'acheter, c'est un mannequin qui pose avec le maillot, un jeune homme qui est très joli. Sauf que rapidement, Vincent, les supporters du club ont remarqué un petit détail, un tatouage sur le début du biceps du monsieur. Il est donc inscrit sur son bras. Il est inscrit Paris, P-A-R-I-S, la ville de Paris. Donc évidemment ça, bah, Marseille ça passe pas. Début de polémique, début d'embrouille des supporters sur les réseaux sociaux. Donc Puma a tout de suite modifié, c'est-à-dire qu'ils ont gommé avec une intelligence artificielle le Paris.
Quand même pas dégourdi.
Et l'OM a carrément, du coup, j'ai été voir sur le site là tout à l'heure encore. L'OM a retiré la photo du mannequin. Là, c'est le mannequin lui-même qui est puni, le jeune homme qui est blond, pas le droit.
Ah bon, tatouage, Paris. Ah, ils ont pu. Ouais. Ils ont puni le jeune,
ont retiré la photo.
Ils ont
voilà.
Le jeune.
Ah, bon. Ouais. Non mais c'est fou parce que ça se voit quand même.
Mais toi, alors le problème, ben ça, c'est qu'on voulait te prendre comme un mannequin pour les maillots, mais. Toi aussi, tu as un gros problème, tu as quand même un tatouage un peu
ah,
visible.
Ça faisait longtemps, ça, tiens.
C'est pas ça. Ouais. C'est pas ça, Eric. Je te le revendrai.
Non, mais je vais vous paraître bizarre, mais je vous jure, je vois pas où est le problème. En fait, ils ont pas vu parce que c'est petit. Ouais. Il faut zoomer pour le voir. Ouais. Franchement, qu'est-ce qu'on a à faire?
Moi, c'est pourtant, Paris, en plus, c'est pas PSG.
Je suis supporter du PSG, je suis à fond dans ces trucs-là de rivalité et tout. Mais vraiment, j'y vois aucun problème.
Non, mais je suis d'accord.
Tu sais, c'est comme quand Meunier avait liké un truc, une publication sur un tifo de Marseille, de l'OM qui trouvait génial. C'est pas bien grave, pas bien grave, pas bien méchant.
Tu as raison, Pierrot, sauf que à ce moment, quoi que fassent les dirigeants, ils seront critiqués. Regarde la frénésie ou la folie sur cette histoire de logo qui a rendu fou tout le monde.
Ouais,
parce qu'à ce moment, comme on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent, on va chercher les détails. Tu es dirigeant du club, tu dois malgré tout l'anticiper, ça.
Oui,
et à la limite, moi je suis d'accord, il n'y a pas marqué PSG, il y a marqué Paris.
Oui,
donc,
Paris, on le voit pas. Bon,
voilà, ouais. Voilà.
Oui, mais quand tu as un club comme Marseille, Eric, ils ont une armée mexicaine de mecs à la com, de mecs qui surveillent le mec de la com. Il faut regarder les détails comme ça.
C'est ce que j'allais te dire. Moi, ce qui m'étonne et ce qui m'énerve dans cette histoire-là, c'est ça. C'est que tu payes à plus. C'est sûrement une société extérieure.
Il devait être 40 là autour du mec pour faire les photos.
Qui a embatté la photo en disant vous allez voir, on va mettre un mannequin, machin comme ça, le truc. Et personne n'est capable, avant que ça sorte, de regarder s'il n'y a pas un petit problème. Parce que s'il y a un petit problème en ce moment, il sort.
Donc. J'ai écouté. J'ai un instant.
Mais c'est pas grave, Pierrot.
Est-ce que vous voulez un instant, Christophe Cessieux, si vous voulez? Oui, très léger.
Oui.
Non, mais, jingle.
Il va le prendre comment?
Non, c'est l'histoire de département. Jingle.
Profitez, il est sur la route en Espagne.
Mais nous écoute.
Il peut plus.
Avec l'appli, peut-être.
Je suis pas sûr.
Jingle Cessieux.
Bonjour,
le rugby, retour sur la finale de Stade Toulousain MHR samedi sur RMC. Alors les arbitres portaient des numéros dans le dos, numéro 84. C'est en relation avec un sondage, 84% des Français estiment que valoriser les arbitres, c'est protéger le sport. Voilà, opération pour favoriser l'arbitre.
Il faut un drôle de sondage. On va pas les
On a eu de la chance que le score c'est pas 69.
Voilà, mais peu importe. Donc à l'antenne on explique ça à Christophe Cessieux. Et lui pensait que c'était un département. Et vous allez bien écouter la séquence, il connaît très bien ces départements et la géographie française.
Ah oui, là surtout que là.
Numéro 84, les arbitres dans le dos.
Alors, ils ont le numéro 84 parce qu'il y a eu un sondage. 84% des Français pensent que valoriser les arbitres, eh bien, c'est protéger le sport. Voilà, on avait cet intitulé. Donc, pour valoriser les arbitres, pour protéger les arbitres.
Le département de Montpellier, non?
C'est 34.
84,
c'est pas grave. Non, c'est 34, c'est l'Hérault, mon cher Christophe.
D'accord, 34. 84, c'est juste à côté.
C'est le Vaucluse, non?
Exactement. C'est le Vaucluse 84, c'est pour ça.
Et on vous a pas donné.
Il est cramé.
C'est drôle.
Christophe, si je peux pas mettre le Vaucluse et les Rouen, c'est pas à côté. Quoi.
C'est pas à côté. Il y a le Gard.
C'est pas très loin. C'est pas très loin.
N'allez pas le fâcher avant samedi, puisque de toute façon, dès samedi, il sera fâché.
Peut-être même avant. Si le resto de ce soir est trop loin de l'hôtel, on peut se rendre.
D'ailleurs, est-ce qu'il a fait une sèche comme toi avant le. Parce que t'as perdu du poids avant le tour, toi, Jérôme, hein. Parce que
tu ouais, peux... je l'ai vu la semaine passée, ouais. On n'a pas fait la même sèche. J'ai pas constaté.
Kikadi. Allez, première question du Kikadi. Première citation.
Je si vous écoutez.
Non, c'est pas grave. Chacun pour soi. Kikadi. Montpellier, c'est bien plus qu'un club pour moi. C'est ma ville, c'est là où j'ai grandi.
Nicolas. Codulo.
Il quitte le club de Montpellier de foot.
Foot.
Ouais.
Savanier.
Savanier. TJ Savanier. Ah, oui. Qui joue à Montpellier.
Purée, je dors, là, Brigadier Savanier.
Qui vit à Montpellier. Figure de la paillade qui quitte le club, mais il veut continuer de.
Il va où alors?
Il veut continuer à jouer au foot.
Ça, c'est un profil fou quand même. Un mec.
À Concarneau, apparemment, il retourne à Concarneau.
C'est à Marseille.
À Concarneau avec le mec de l'OM.
Dans un instant, le Tour de France. Êtes-vous hypé comme jamais par ce Tour 2020? 26, c'est le Super Moscato Show, à tout de suite.
16h57, le Super Moscato Show, on revient tout de suite.